Ave Maris Stella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, Felix Soli Porta.
Stella Maris. Une émission mariale proposée par le frère Clément Bonnou, franciscain de l'Immaculée, pour aller à la rencontre de Marie sur les chemins de l'espérance.
Toutes les générations me diront bienheureuse. C'est un extrait de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 1er, verset 48. Bienvenue à vous, chers amis, auditrices, auditeurs, dans notre émission Stella Maris sur Radio Présence, votre radio famille. Tout au long de cette année 2026, nous découvrons comment la Vierge Marie a été source d'inspiration, de conversion, de fécondité spirituelle pour tant de saints et saintes dans l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, nous poursuivons notre plongée dans l'univers franciscain avec un second regard sur saint François d'Assise, ce frère universel, ce pauvre de Dieu amoureux du Christ et de Marie. Nous verrons comment la présence de Marie dans la spiritualité franciscaine est un chemin de fécondité apostolique, une source de paix intérieure, une lumière missionnaire dans la nuit du monde. Et dans la deuxième partie de notre émission, nous retrouverons nos deux invités qui nous ont accompagnés ces dernières semaines, Madame Jacqueline Baillet, et fondatrice de l'Association pour la mémoire du Père Marie-Antoine, et Michel Clerguet, président de l'APMA. Eh bien, pour évoquer l'héritage marial du Père Marie-Antoine, fils spirituel de Saint François d'Assise. Nous allons marquer une petite pause en remerciant Franck Guéret qui nous accompagne à la technique aujourd'hui. Eh bien, si l'on cherche une figure qui a su aimer Marie non seulement de cœur, mais de toute sa vie, François d'Assise se dresse comme un géant d'amour filial. On l'imagine souvent marchant pieds nus, pauvre parmi les pauvres, prêchant aux oiseaux, chantant le cantique du soleil. Mais derrière cette simplicité évangélique se cache une dévotion profonde, constante, discrète, mais puissante envers la Vierge Marie, celle qu'il appelait tendrement la Dame du monde. Dès le début de sa règle de vie, François place tout son ordre sous la protection de Marie. Il écrit dans son testament : « Je recommande tous mes frères à la très sainte Vierge Marie, afin qu'elle leur vienne en aide et les garde sous sa sainte protection. » Ce n'est pas un geste de piété extérieure. Pour François, Marie est la mère qui enfante en nous le Christ, la mère qui éduque ses enfants dans l'humilité, la pauvreté, la joie intérieure. Il voyait en elle le modèle parfait du disciple, pauvre, libre, entièrement disponible à Dieu. Elle est la forme du Christ en nous. Comme dira plus tard Saint-Maximilien Marie Kolb, un autre franciscain marial. Nous en reparlerons au cours de cette année. Pour François, honorer Marie, c'est apprendre à enfanter Jésus dans sa propre vie. C'est beau ça. Honorer Marie, c'est apprendre à enfanter Jésus dans sa propre vie. François était profondément touché par le mystère de l'incarnation, ce Dieu qui se fait petit enfant, fragile, pauvre. C'est pourquoi il invente la crèche vivante de Greccio en 1223. Je suis fier de pouvoir l'entendre de l'évêque auxiliaire de Toulouse, Monseigneur Jean-Pierre Battu, et qui a honoré notre ensemble paroissial de Tournefeuille en présidant la veillée de Noël cette année. Et il est parti de Saint-François d'Assise, qui a initié la crèche de Noël que nous avons chez nous, que nous faisons, que nous reprenons dans nos paroisses chaque année à Noël. Eh bien, ce n'est pas pour faire un spectacle que Saint-François a voulu cette image qui a traversé tous les siècles, depuis 8 siècles maintenant, mais pour contempler le mystère de l'humilité de Dieu qui se fait nourrisson dans les bras de Marie. C'est à travers le regard de Marie que François contemple l'enfant Jésus. Elle est comme le miroir de cette divine tendresse qui descend jusqu'à nous. Comme le dira le pape François, un amoureux de Saint François d'Assise, il dit « Dans la crèche, Marie est celle qui, sans dire un mot, nous montre Jésus, le Verbe fait chair. » Chez François, Marie n'est jamais séparée du Christ. Elle nous conduit à lui. François, qui n'avait ni bureau, ni plan pastoral, ni financement, a pourtant lancé une des plus grandes révolutions spirituelles de l'histoire de l'Église. Eh bien, pourquoi? Parce qu'il a vécu comme Marie, pauvre, libre, entièrement disponible à l'Esprit. Sa fécondité vient de là. Combien de franciscains dans le monde, combien de franciscains martyrs, jusqu'en Terre Sainte, dans des pays difficiles. Eh bien, c'est cela, le dynamisme intérieur qui s'appuie sur Marie. Marie, humble servante du Seigneur, devient la mère de Dieu et la mère de l'Église parce qu'elle a dit oui sans condition. François, disciple de Marie, épouse cette même logique du dépouillement et c'est cela qui le rend fécond. Il ne cherche ni la gloire ni la réussite, il cherche à aimer comme Marie a aimé. Eh bien, nous allons faire une petite pause musicale et recevoir nos invités du jour. Bienvenue à vous, chers amis, auditrices, auditeurs, dans cette partie de notre émission à la rencontre de nos invités. Vous savez, en cette année jubilée qui s'est achevée, il est bon de se tourner vers des figures qui ont su la faire grandir autour de nous. Nous avons parlé de l'espérance pendant toute l'année dernière. Le père Marie-Antoine est l'un de ceux-là. Si vous avez été avec nous à notre dernière édition de Stella Maris, eh bien, on a entendu nos invités, Jacqueline Baillet et Michel Clairet, qui sont avec nous encore aujourd'hui, que le Père Marie-Antoine est un homme de Dieu, proche du peuple, semeur d'espérance dans les cœurs blessés. Eh bien, pour nous aider encore à comprendre l'actualité de son message, nous accueillons encore nos invités aujourd'hui, Jacqueline et Michel. Jacqueline, bonjour.
Bonjour, mon père.
Michel, bonjour.
Bonjour mon père.
Voilà. Alors nous nous retrouvons dans cette série, la dernière que nous faisons aujourd'hui, et nous allons nous retrouver encore pour les événements du bicentenaire de la vie du père Marie-Antoine. Et la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, le père Marie-Antoine, témoin d'une espérance incarnée, comment a-t-il transmis l'espérance aux plus pauvres, aux malades, aux familles? Jacqueline?
Eh bien, déjà à son époque, comme d'une autre aujourd'hui, on a beaucoup de raisons de désespérer, au contraire, d'être découragé. Et il disait que finalement, il n'y avait que la religion catholique pour apporter cette espérance pour laquelle on était tous en recherche finalement. Et donc, c'était donc par l'enseignement de cette religion et par certains vecteurs. Et le premier de ces vecteurs, excusez-moi du mot, c'est la Sainte Vierge. Pour lui, c'était vraiment la source d'espérance. Et il donnait l'exemple de Lourdes. Vous savez que Lourdes, c'est de 1858, après le dogme de l'Immaculée Conception en 1854. Et que il donne l'exemple de ces pèlerins qui, tout de suite, sont venus en nombre, sont venus du monde entier. Et quelle était leur attitude? Finalement, c'était toujours une recherche de la Sainte Vierge avec une confiance absolue. Il donne de nombreux témoignages, lui-même le vivait, leur faisait vivre. Et finalement, après, chacun retournait chez lui et apportait ce même message d'une Vierge qui peut tout, qui est vraiment la porte de l'espérance.
Jacqueline Baillet, vous êtes une chrétienne engagée et vous avez aussi servi votre pays comme dans la vie publique et comme mère. Et vous êtes une observatrice, si on peut le dire. Et si je vous pose la question de savoir, mais pourquoi parler du Père Marie-Antoine aujourd'hui, en 2025-2026?
Parce que je crois qu'au-delà de toutes les spécificités de notre époque, il y a quelque chose de plus général qu'on retrouve chez le Père Marie-Antoine dans ses actes, dans son amour surtout. Et je crois que voilà, je crois qu'aujourd'hui, ce qui peut nous sauver, c'est l'amour. Et on
Oui.
en est conscient d'ailleurs.
Oui.
Les messages sont de plus en plus porteurs de prière et d'amour.
Merci Jacqueline. Michel, et ici je disais aujourd'hui 2026, est-ce que c'est encore possible, utile de parler de ces saintetés et qui ont conduit la vie à une époque?
Tout à fait. Moi, je dirais aussi, pour résumer un petit peu ce qu'on vient de dire, c'est que il y avait une parfaite cohérence entre ses paroles et ses actes. Un de ses amis prêtres disait prêcher l'évangile et commencer à faire soi-même ce qu'on prêche, lui reconnaissait donc un de ses curés. Et aujourd'hui, je crois que le père Marie-Antoine, il avait un sens pour les plus petits déjà, les enfants, les plus pauvres. Ça, c'est quelque chose vraiment qui, pour moi, est quelque chose d'actuel. La force de son amour, on en a parlé, qui peut changer le monde, mais la force de sa foi aussi. Il la portait dans sa parole, dans son attitude. Elle faisait partie de son être même. Et tout ça, ce sont des exemples vraiment d'aujourd'hui. Sa charité aimable, son efficacité à porter l'évangile, redonner l'espérance et l'ouverture. Vraiment, c'était, on disait que c'était le père Mariateur était un saint joyeux. Il portait une gaieté sainte et robuste. Et je crois que ces exemples-là nous aident à tirer vers, à aller chercher ce qui est la beauté de Dieu aussi.
La question que je vous pose, à la suite de ces éléments qui peuvent être des valeurs à mettre en exergue aujourd'hui, et comment le message du Père Marie-Antoine peut-il parler à un jeune aujourd'hui?
Parler à un jeune par, comme je disais, par la cohérence de sa vie déjà. Rechercher qu'est-ce qui est l'essentiel pour moi aujourd'hui. Et chacun peut trouver à travers les exemples de cohérence de la vie du Père Marie-Antoine, sa dévotion mariale, sa dévotion pour l'Eucharistie, la sainteté qu'il recherchait vraiment, et quelque chose qui peut nous donner cet exemple à suivre et nous encourager à aller de l'avant.
Oui. Jacqueline ?
Il me vient un petit exemple, une petite anecdote. C'est un jeune homme, cette fois de la bonne société, et qui se donnait au spiritisme. C'était venu ça. Bon. Et le cigare aux lèvres, il venait accompagner des amis femmes à la mission du Père Marie-Antoine, mais il restait devant la porte, cigare aux lèvres, et il repartait, il ne participait pas à la mission. Et le Père Marie-Antoine a vu son manège. Alors, il s'est approché de lui un soir, et d'un geste, mais très paternel, il lui enlève le cigare qu'il avait sur les lèvres. Et puis il invite gentiment l'accompagner ces dames. Mais jusqu'au bout, regard du jeune homme, les manières du missionnaire ont été si simples, si humaines, qu'il ne parvient pas à se mettre en colère de cette liberté qu'il a prise à son égard. Pauvre jeune homme qui s'ennuyait, le voilà soudain passionnément intéressé par ce grand gaillard de moine. Il incline la tête et il entre. Il est devenu assidu à sa mission, obéissant au Père. Il abandonnera ses pratiques ésotériques et se convertira.
Oh, magnifique, quelle pédagogie! Et une pédagogie de l'espérance, hein? Et c'est beau ça. Alors, pour rester dans le temps, Michel. Comment vous travaillez au rayonnement aujourd'hui et de la vie du Père Marie-Antoine ?
Alors, le rayonnement de sa vie, déjà, nous montre qu'être heureux, on peut être plus heureux en se détachant de ce qui est éphémère pour se recentrer à l'essentiel. Il parlait des relations humaines, la spiritualité, l'engagement.
Mais pour l'APMA en particulier.
Et pour l'APMA, notre rôle, c'est déjà de faire redécouvrir, œuvrer et perpétuer la mémoire du père Marie-Antoine, de constituer aussi un centre de ressources et de contribuer à sa diffusion. Nous avons les éditions du Pêche où nous rééditons 42 livres écrits par le père Marie-Antoine et qui sont diffusés à travers toute la France.
Le musée au cœur de Toulouse.
Un petit musée qui a été ouvert en 2022 tout près du Capitole, dans le presbytère Notre-Dame du Thor, est un lieu en effet de rencontre, un lieu convivial également, qui permet de redécouvrir la vie du Père Marie-Antoine à travers soit des vidéos, soit à travers les expositions qui sont réalisées une à deux fois par an. Qui nous permettent de présenter différents documents et lettres et autres du Père Marie-Antoine.
On essaye de suivre l'exemple du Père Marie-Antoine, qui était un homme de communication extraordinaire.
Oui.
Son efficacité venait de là, et il était d'une inventivité. Et donc je crois qu'on a utilisé depuis 20 ans et en développement tous les moyens possibles.
Et nous sommes dans le mystère de l'Église, le mystère d'intercession. Les saints sont des exemples pour nous. Les saints sont des figures qui intercèdent pour nous aussi. Est-ce que vous travaillez dans le sens de faire connaître le Père Marie-Antoine, dans ce sens de l'intercession, les prières? Comment les découvrir, ces prières, pour bénéficier des grâces du Père Marie-Antoine?
Nous sommes très priants nous-mêmes. Nous avons la Sainte Vierge dans toutes nos salles. Nous prions beaucoup. Et puis, nous avons publié, justement, plusieurs livrets de prières, 9 très exactement, qui réunit vraiment l'essentiel des méditations et des prières du Père Marie-Antoine, que ce soit à la Sainte Vierge, que ce soit au Sacré-Cœur de Jésus, que ce soit à Saint-Antoine de Padoue, que ce soit à Saint-Joseph, Marie-Madeleine, Saint-François d'Assise, etc. Et je crois, d'ailleurs, ils ont un grand succès, nous les éditons continuellement, nous les rééditons continuellement. Voilà.
Et bien, on peut passer au petit musée pour les découvrir, ces prières. Voilà. Oui, Michel.
Et dans les librairies, ils sont dans toutes les librairies.
Ah, d'accord.
Et si tous les titres n'y sont pas, on peut les demander et les avoir.
Je rajouterai qu'il y a des sites qui gardent la mémoire vivante du Père Marie-Antoine. Tout d'abord, Notre-Dame de Consolation du Pêche, où nous avons fêté le 20 décembre... l'ouverture officielle de l'année du bicentenaire, qui est une année de prière pour sa béatification. Et il y a aussi à Notre-Dame de Lourdes quelque chose qui se fit tous les jours, la procession au flambeau, qui est l'œuvre du Père Marie-Antoine, la procession des malades. À son couvent, il y a tous les mois un chapelet mensuel. À la basilique Saint-Sernet de Toulouse, où il y a son buste et les allées du Père Marie-Antoine. Mais aussi, il y a d'autres exemples tout vivants actuellement. Au sanctuaire, par exemple, Notre-Dame de Seignac, il a été décidé que cette année, Monseigneur Meyer, avec Marie, grandir dans la communion missionnaire à l'école du Père Marie-Antoine. Donc il va y avoir en effet tout au long de cette année des enseignements sur le Père Marie-Antoine, comme nous le faisons un petit peu aujourd'hui, qui vont permettre de découvrir et vraiment de rentrer dans la spiritualité du Père Marie-Antoine.
Une dernière question pour vous deux, Jacqueline et Michel. Qu'attendez-vous de la célébration de ce bicentenaire que vous préparez avec amour et détermination depuis quelques mois?
Eh bien, nous attendons bien sûr de faire connaître le Père Marie-Antoine, mais ce n'est pas pour le plaisir de faire connaître le Père Marie-Antoine en soi. C'est pour le prier, parce que nous sommes certains qu'il est près de la Sainte Vierge, là où il est. Avec d'autres, mais qu'il a particulièrement donné pendant 50 ans de mission à la Sainte Vierge. Et donc, il est près d'elle et qu'il faut apprendre à lui demander des miracles quotidiens. Et c'est le moment.
Le Père Marie-Antoine avec la Vierge Marie?
Avec la Vierge Marie, moi je dirais tout simplement que la flamme qu'il a allumée est le porteur d'un message de foi et d'espérance puisse être transmis à chacun de nous.
J'aurai le plaisir de vous retrouver encore dans cette émission comme invité de Stella Maris. Merci à Enzo qui nous a accompagnés à la technique. Eh bien, bon temps aux côtés de ce grand saint, le saint de Toulouse.
Merci, mon Merci. Père. Merci.
Eh bien, à l'issue de ces deux témoignages puissants, laissons-nous interpeller, chers frères et sœurs, car la sainteté, ce n'est pas une affaire d'hier. Saint François d'Assise, comme le Père Marie-Antoine, dont nous venons d'écouter de très beaux témoignages, eh bien, il nous rappelle que la dévotion mariale n'est pas un supplément, mais un chemin sûr pour suivre le Christ aujourd'hui dans nos vies bien concrètes, avec leur élan, leur pauvreté, leur combat. Aimer Marie comme une mère et comme une reine. Saint François l'appelait la Vierge faite Église, je l'ai dit dans la première chronique. Il lui confiait ses frères, ses doutes, ses joies. Il la priait dans sa pauvreté. Et le Père Marie-Antoine, le saint de Toulouse, priait son chapelet chaque jour, au pied d'une statue de la Vierge. Aujourd'hui encore, notre première fidélité, c'est de prendre Marie chez nous, comme Saint Jean l'a fait, l'a reçu au pied de la croix, lui ouvrit notre cœur, nos maisons, nos familles, nos paroisses. Prenons l'habitude de la saluer chaque matin. Marie, je te confie ma journée. Guide mes pas vers Jésus. Marie ne se met jamais en avant. Elle fait ce que Dieu demande. Dans la joie et dans l'épreuve, elle est discrète, mais décisive. Toujours tournée vers le Christ. Saint François d'Assise, comme le Père Marie-Antoine, en chemin de béatification, eh bien, ils ont suivi Jésus dans la radicalité, en vivant simplement dans la confiance. Nous aussi, nous sommes appelés à faire ce que Marie dit à Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Eh bien, chers frères et sœurs, que Saint François d'Assise et le Père Marie-Antoine nous aident à vivre ce que nous venons de méditer, c'est-à-dire recevoir Marie dans notre vie. L'imiter dans sa foi humble et ardente, la faire connaître et aimer là où nous sommes envoyés. Car c'est vrai, toutes les générations la diront bienheureuse. Et chaque époque a besoin de saints qui aiment Marie pour aimer Jésus plus profondément. Je finis avec cette petite prière. Vierge Marie, humble servante du Seigneur, Mère du Christ et Mère de l'Église, toi que Saint François appelait avec amour la Vierge faite Église, nous te choisissons aujourd'hui encore comme notre guide et notre refuge. Amen. Merci à Francky pour sa collaboration technique et à la prochaine.